12h30 sur France Culture, le journal, Ilan Malka.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. C'est donc Kamala Harris qui sera la colistière de Joe Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche. L'annonce a été faite hier. Le duo est d'ores et déjà qualifié d'historique, mais quelles sont plus précisément les forces et les faiblesses de Kamala Harris? C'est ce que nous dira notre invité Thomas Negaroff, historien spécialiste des États-Unis. Continuez à vous battre, c'est l'appel lancé à ces journalistes par Jimmy Lai, personnalité médiatique hongkongaise, arrêté lundi dernier dans le cadre d'un vaste coup de filet contre la mouvance pro-démocratie. Il a été libéré hier sous caution. Il incite la presse de Hong Kong à ne surtout pas baisser les bras. Précision à suivre, signée Florence de Changy. Au deuxième trimestre, le Royaume-Uni a connu une chute de son PIB de 20,4%, ceci bien sûr à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Il s'agit de la pire récession jamais enregistrée dans le pays. Au Royaume-Uni, toujours, la justice a rendu un arrêt important hier au sujet de la vidéosurveillance. Aude Soufi nous en dira plus. Il y a un an, le maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, trouvait la mort écrasée par la camionnette de deux personnes qu'il avait surpris en train de décharger des gravats dans sa commune. Un an plus tard, les agressions envers les maires en France sont de plus en plus fréquentes. C'est ce que nous dira Nicolas Balu. Ce sera donc Kamala Harris, sénatrice de Californie, qui ira en compagnie du démocrate Joe Biden à la conquête de la Maison Blanche le 3 novembre prochain. Cette décision est historique à plusieurs titres. Kamala Harris est la première femme noire colistière aux États-Unis. Elle est également la première personne d'origine indienne à briguer la vice-présidence des États-Unis. Les réactions sont nombreuses. Félicitations à Kamala Harris qui entrera dans l'histoire. C'est ce qu'a tweeté Bernie Sanders, son ancien rival lors de la primaire démocrate. Pour Bill Clinton, c'est un choix formidable. Pour Barack Obama, elle est plus que prête. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Et quels sont, selon vous, les principaux atouts de Kamala Harris en tant que colistière?
D'abord, c'est, vous l'avez dit, une femme. C'est un engagement de Joe Biden que de choisir une femme colistière. C'était déjà le cas, vous avez dit. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Sarah Palin en 2008 avec John McCain ou Geraldine Ferraro avec avec Walter Mondale en 1984. Mais là, c'est une femme qui en plus coche une autre case importante aux États-Unis, qui est la case ethnique, puisqu'elle est de père jamaïcain, de mère indienne. Donc effectivement, elle marque doublement l'histoire africaine-américaine par son père. Même si son père n'a pas une histoire d'ancien esclave, mais de migrant économique vers la Jamaïque, d'asiatique américaine aussi. Donc c'est effectivement une dimension très très unique. Et c'est, rien que ça, ça fait déjà un atout formidable dans une Amérique qui se cherche souvent d'ailleurs à marquer l'histoire. Barack Obama, c'était un peu ça. Et je crois d'ailleurs que le lien avec Barack Obama est très fort. Je suis pas étonné d'entendre Barack Obama trouver formidable Kamala Harris parce qu'elle lui ressemble. Elle lui ressemble parce que elle a une identité qui est effectivement unique, historique, qui marque l'histoire. Et puis politiquement, elle est plutôt modérée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas peur à un électorat qui pourrait être inquiet par, une radicalité qu'incarnerait par exemple tous les candidats que poussait Bernie Sanders par exemple.
Alors il faut dire justement qu'elle ne fait pas l'unanimité chez les démocrates de l'aile gauche. Est-ce que c'est ce profil centriste dont vous parlez, pragmatique, qui est critiqué parfois?
Oui, alors c'est le cas, mais je crois que le choix de Biden est plutôt malin à cet égard, parce que finalement, il a bien perçu, je pense, que la radicalité d'une vice-présidente pourrait faire reculer certains électeurs indépendants qui pourraient avoir peur et qui pourraient offrir à Trump la possibilité d'attaquer une candidate socialiste qui veut, par exemple, mettre fin à la police aux États-Unis. C'est comme ça que dépeignent souvent les socialistes, les Trumpistes. Donc, il évite ce piège-là, et en même temps, il est assez persuadé, je pense qu'il a raison, que les progressistes les plus à gauche, les socialistes, iront, contrairement à 2016, voter pour éliminer Donald Trump. Du coup, ça lui permet d'éviter de s'aliéner une partie de l'électorat, les indépendants, les modérés, tout en ne craignant pas de perdre les progressistes qui, eux, je crois, quoi qu'il arrive, iront le 3 novembre prochain pour éliminer Donald Trump. Donc c'est un choix peut-être par défaut, mais un choix tactique plutôt bien vu.
Alors Donald Trump, lui, il l'a défini comme la sénatrice la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse. Il mâche pas ses mots. Il y a un conflit personnel entre eux deux?
Alors il y a peut-être les auditions de Brett Kavanaugh, vous vous souvenez, ce candidat de Donald Trump à la Cour suprême qu'on avait accusé de viol, et les auditions au Congrès avaient été extrêmement dures, notamment avec Kamala Harris qui avait attaqué très très violemment et très très frontalement ce candidat de Donald Trump. Et puis il y a aussi les mots qu'emploie Trump sont des mots habituels que des hommes virilistes emploient pour décrédibiliser une femme, forcément parce qu'elle a de l'ambition, c'est louche, elle est forcément méchante, vous voyez, c'est des mots qu'on n'emploie jamais pour les hommes, mais méchant, on n'emploie jamais ça pour un homme. Bah, pour une femme, on l'emploie. Ça montre, je crois qu'il veut encore une fois pousser l'électeur moyen américain à avoir peur d'une femme, et en particulier d'une femme noire américaine. Il y a un préjugé très fort aux États-Unis, The Black Angry Woman, la femme noire en colère. C'est comme ça qu'il veut essayer de dépeindre Kamala Harris. Sauf que Kamala Harris, elle rentre vraiment pas dans cette case-là. Les gens qui la connaissent un peu savent que c'est une femme extrêmement souriante, qui est certainement dure dans le débat, mais qui sort de ce préjugé un peu de la femme noire en colère qui ne fait que hurler et demander par exemple réparation pour l'esclavage. On n'est pas du tout dans ce genre de candidature.
Merci à vous Thomas Negaroff. On rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis et consultant pour Radio France. Les relations se tendent entre Bagdad et Ankara. Les autorités irakiennes font savoir qu'elles refusent de recevoir jeudi le ministre de la Défense turc comme il était prévu. La visite est annulée. L'Irak convoque en revanche l'ambassadeur turc. Hier, un drone de la Turquie a tué deux hauts gradés irakiens dans le nord du pays. Ankara estime dans cette zone être dans son droit en bombardant des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan. À Hong Kong, c'est un véritable appel au combat et à la résistance qui est lancé aujourd'hui par le mania des médias Jimmy Lai dans une vidéo adressée à ses journalistes. Continuez à vous battre, continuons à nous battre, leur dit-il. Jimmy Lai a été libéré sous caution hier après avoir été arrêté lundi dernier par la police dans le cadre d'un vaste coup de filet contre la mouvance pro-démocratie. Et sa libération, Florence de Changy, ainsi que celle d'autres militants, ont été accueillis avec grand soulagement à Hong Kong.
C'est une petite foule en liesse qui accueille le mania de la presse d'opposition, Jimmy Lai, quand vers minuit, il sort de la station de police de Mong Kok, entouré de ses avocats, 40 heures après avoir été arrêté chez lui. Une pomme par jour, scandent ses partisans en référence au nom du journal, le Apol Daily, tabloïd populaire ouvertement pro-démocratie et anti-communiste que les Hongkongais ont acheté en masse lundi et mardi pour exprimer leur soutien au titre après la grosse opération d'intimidation menée par la police au siège du journal. Une heure plus tôt, c'est la militante pro-démocratie Agnès Chow, 23 ans, qui quittait un autre commissariat. Comme Jimmy Lai, elle était soupçonnée d'avoir conspiré avec des puissances étrangères. Agnès Chow a indiqué qu'elle avait dû donner son passeport et payer une caution de plus de 20 000 euros. Elle a affirmé n'avoir toujours pas compris pourquoi ou sur quelle base elle avait été arrêtée.
Cela me semble évident que le régime et le gouvernement utilisent la loi de sécurité nationale pour faire taire les dissidents politiques. Et cela risque de viser de plus en plus de Hongkongais, mais pas seulement. C'est flagrant qu'il s'agit de persécution et de suppression politique.
De retour à son bureau en début d'après-midi, où il a été accueilli par des applaudissements, Jimmy Lai a encouragé ses journalistes à garder le ton du journal qui déplaît tant à la Chine et au camp pro-Pékin de Hong Kong. Le journal a annoncé que Jimmy Lai tiendrait son chat en direct sur Twitter demain, comme tous les jeudis.
On apprend aujourd'hui également que Hong Kong annonce la suspension des traités d'extradition avec la France et l'Allemagne. On apprend également à l'instant que la police biélorusse a indiqué avoir tiré avec des armes à feu sur les manifestants qui protestaient hier contre les résultats de l'élection présidentielle dans le sud du pays. Les tirs ont fait un blessé. Il n'y a pour le moment pas plus de précisions sur le sujet. Au Royaume-Uni, c'est un jugement important qui a été rendu hier. La justice inflige un revers à la reconnaissance faciale. Pour la Cour d'appel de Londres, l'utilisation de ce système par la police galloise n'est pas suffisamment encadrée et empiète trop sur la vie privée. Pour autant, le principe n'est pas interdit et, au Tsoufi, cette technologie va donc poursuivre son développement dans un pays qui compte déjà 5 millions de caméras de surveillance.
Le système utilisé jusqu'à présent par la police du sud du pays de Galles isole les visages des images captées par les caméras de vidéosurveillance dans les supermarchés ou dans la rue et les compare avec les photos d'une liste comprenant suspects, personnes disparues ou présentant un intérêt. Mais ce sont des policiers qui établissent cette fameuse liste sans critères précis, ce que la justice estime discriminatoire. Elle considère aussi qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée puisque le plaignant dans cette affaire a été identifié dans une manifestation grâce aux images enregistrées alors qu'il faisait ses courses de Noël l'année précédente. La Cour d'appel de Londres a donc jugé que l'utilisation de cette technologie n'était pas suffisamment encadrée, mais que son intérêt était tout de même supérieur aux atteintes aux droits de l'homme. La police pourra donc continuer à utiliser la reconnaissance faciale automatique en changeant notamment des éléments de l'algorithme. Reste à prouver son efficacité. Selon une étude de l'université de Cardiff, plus de 70% des identifications réalisées par le système sont en fait des erreurs.
Le Royaume-Uni, toujours, est en récession record au deuxième trimestre. Le PIB a connu une chute de 20,4% et sur les 6 premiers mois de l'année, il s'agit de la pire récession jamais enregistrée dans le pays. D'après l'Office national des statistiques, l'essentiel de la contraction, qui a commencé à se faire sentir en mars, est survenu en avril, mois entier de confinement lié bien sûr à la crise de la Covid-19. Éviter à tout prix une deuxième vague et un reconfinement, c'est l'objectif du gouvernement français qui durcit le ton face à une situation épidémiologique qui évolue dans le mauvais sens. Ce sont les propos tenus hier par Jean Castex. Le Premier ministre demande au préfet de développer au maximum les endroits où il y a obligation du port du masque et il annonce que l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes est prolongée jusqu'au 30 octobre. Dans la ville de Paris, le virus circule aujourd'hui plus vite. Cela dit, les hospitalisations restent moins nombreuses qu'il y a quelques mois. C'est ce que constate le professeur Jean-Michel Constantin qui dirige l'un des services de réanimation de la Pitié-Salpêtrière.
De façon indéniable, on a peu de patients en réanimation. Je crois que sur la Pitié aujourd'hui, on doit avoir 5 patients dans les services de réanimation. Pour donner un ordre de grandeur, fin mars, début avril, au pic de l'épidémie, on était à plus de 200 patients hospitalisés en réanimation. Donc c'est très faible. Mais indéniablement, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints par le Covid. Notre chance, c'est que ce sont essentiellement des patients plutôt jeunes, donc ils ne font pas de forme grave. On a la sensation qu'on a vécu cette première partie de l'épidémie avec la première vague comme une déferlante qui n'était pas prévue, d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, il est peu probable qu'on ait une contamination du même niveau que la première en nombre de patients. Mais par contre, il va falloir qu'on apprenne à vivre pour la population et à travailler pour nous avec le virus. Parce que très probablement, on va avoir des cas pendant encore longtemps, jusqu'à ce qu'on ait soit une immunité collective, soit un vaccin qui soit réellement efficace. Et donc, il va falloir qu'on apprenne dans les hôpitaux à prendre en charge ces patients qui ont une maladie Covid en même temps que les autres. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est notre métier, on est là pour ça et on est préparé pour le faire.
Propos recueillis au micro de Tara Schlegel. On apprend aujourd'hui également que le marathon de Paris est annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus, initialement prévu le 5 avril. L'édition 2020 avait d'abord été reportée au 18 octobre, puis une nouvelle fois au 15 novembre, avant donc d'être annulée. Un peu plus d'un an après la mort du maire de Signes dans le Var, renversé par une camionnette, les agressions de maires et d'élus municipaux ne diminuent pas, bien au contraire. Elles sont au nombre de 233 depuis le début de l'année, un chiffre qui est supérieur à celui de l'an dernier. On en recensait alors 198 sur la même période. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour Ilan.
Le problème de la sécurité des maires reste donc entier.
Oui, les exemples s'enchaînent et se ressemblent depuis le début de l'été, dans la Manche, à Port-Bail-sur-Mer, lorsqu'un élu veut faire empêcher le camping sauvage, en Gironde, à Saint-Philippe-d'Aiguille, ou Croisille, dans le Pas-de-Calais, lorsqu'il proteste contre le tapage nocturne. Et ce même constat, ce sentiment que la figure de l'élu local n'est plus respectée par une frange croissante de la population. Gérard Duet, le maire de Croisille.
Je suis ici, tout le monde disait bonjour. Aujourd'hui, on regarde par terre, il y a une bonne partie des gens qui ne disent plus bonjour. Il n'y a plus ce respect de la personne qui est là et qui est disponible 24h sur 24, 365 sur 365.
La loi engagement et proximité, votée en fin d'année dernière, n'a pas changé la donne et le sénateur Philippe Bas demande un plan gouvernemental. Il l'a écrit au Premier ministre Jean Castex.
Il faut aller plus loin. Dans les mesures de protection d'une part et dans les mesures d'autre part d'affirmation de l'autorité républicaine du maire pour qu'elle soit mieux respectée, que les arrêtés municipaux, quand ils sont violés, puissent faire par exemple l'objet d'amendes forfaitaires comme les amendes qu'on a quand on ne respecte pas le code de la route.
Autre revendication, des cellules préfectorales d'accompagnement des maires et une plus grande simplicité pour déposer plainte. Le maire doit pouvoir se passer de l'avis du conseil municipal, selon lui. Mais le problème, c'est surtout le suivi de la justice. Selon l'Association des maires de France et son secrétaire général, Philippe Laurent, il faut surtout qu'elle soit appliquée. Selon le maire de Sceaux, beaucoup de plaintes ne sont pas traitées, faute de moyens, notamment dans les affaires d'urbanisme où l'intégrité physique n'est pas engagée, selon lui. Vous le voyez, les chantiers sont très nombreux pour le gouvernement.
Merci à vous, Nicolas Ballu. À l'île Maurice, la quasi-totalité du mazout qui était encore présent à bord de ce bateau japonais échoué a été récupéré. On estime qu'un millier de tonnes de pétrole se sont déversées en mer. Le vraquier renfermait toujours 2000 tonnes de fuel dans ses réservoirs. 13 départements du nord de la France restent aujourd'hui encore en vigilance rouge, canicule et orage. Dans le nord-est, on attend de petites averses orageuses dans la journée. En début de soirée, on attend des coups de tonnerre sur le quart sud-ouest. Les températures de l'après-midi sont de 21 à 28 degrés en Bretagne et le long de la côte atlantique, 30 à 34 degrés de la Normandie au sud-ouest et en bord de Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia. Elle a été réalisée à la technique par Marie-Claire Oumabadi.